95.7 Kick, Saguenay. Le show du matin avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Alexandra Tremblay.
Il est 7h43 avec des nuages aujourd'hui et du soleil, mais cet après-midi, 17 degrés comme maximum. C'est de loin la journée la plus chaude de la semaine. Je vous rappelle que l'an dernier, il faisait froid le 16 mai. Il y a 3 ans, il y avait de la neige. En passant, le lac Saint-Jean, information comme ça, calé à 40-45% de sa surface. Donc, les experts qui avaient prédit autour du 18 mai, d'après moi, seront pas dans le champ. Là. On sera pas dans les patates. Ça pourrait arriver d'ici le week-end. Et en fin de semaine, du soleil samedi, mais plus frais un petit peu. Et dimanche et lundi, on prévoit de la pluie. Mais ça, ce sera le cas possiblement partout au Québec. Les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, toujours pas réglés. D'ailleurs, notre ministre canadienne, Chrystia Freeland, s'est rendue cette semaine à Washington. Là, par la suite, elle a quitté. Mais on est toujours en négociation, puis histoire de savoir comment ça avance, parce qu'évidemment, ça nous impacte ici dans la région, les tarifs sur l'aluminium avec la présence de Rio Tinto. Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine, est avec nous ce matin. Raphaël Jacob, bon matin.
Bon matin.
Tout le monde pensait que c'était réglé avec la signature de l'accord qu'on avait fait avec le Mexique, les États-Unis, mais finalement, il y a certains détails qui ne sont pas réglés, de ce qu'il faut comprendre.
Ben oui. Puis ce sont des gros détails qui accrochent, parce que la signature de l'accord, c'est une chose, c'est ça qu'on a vu à l'automne dernier entre les dirigeants des trois pays, M. Trudeau, M. Trump, M. Peña Nieto, mais le problème, c'est que l'accord ne rentre pas en vigueur tant qu'il n'est pas ratifié par le Parlement canadien, le Congrès mexicain, le Congrès américain, et surtout du côté américain, ça bloque, c'est carrément bloqué, et un des enjeux semble vraiment, surtout du côté du Sénat, qui est à majorité républicaine, ça semble vraiment être la question, justement, de ces tarifs sur l'acier et l'aluminium. Vous avez d'importants républicains, sénateurs républicains, qui l'ont dit publiquement, tant et aussi longtemps que ces tarifs-là ne seront pas levés, ça va être pratiquement impossible pour nous d'appuyer la ratification de l'accord. Donc, vous avez ça comme problématique. Donc, c'est quand Mme Freeland se rend à Washington, comme c'était le cas hier, pour discuter de ces tarifs-là, à toute fin pratique, elle ne discute pas simplement de tarifs sur l'acier et l'aluminium, elle discute aussi, dans un contexte beaucoup plus large, de la ratification de ce nouvel accord de libre-échange-là qui viendrait, on le sait, remplacer l'ALENA qui est en place depuis quoi, à peu près un quart de siècle. Là.
Ouais, mais qu'est-ce qui bloque exactement? Là? Pourquoi les États-Unis s'entêtent encore avec les tarifs?
Sincèrement, la question n'a pas vraiment de réponse évidente. C'est la décision d'un homme, on le sait, et d'un homme seulement. C'est Donald Trump qui voulait de ces tarifs-là. Et rappelons, parce que ça, je pense que ça a été oublié par bien des gens, que lorsque les tarifs sur l'acier et l'aluminium ont été annoncés, il y a des conseillers économiques du président, incluant son plus important conseiller économique, qui n'étaient même pas au courant de l'annonce. Donc, ça s'est vraiment fait, je ne vous dirais pas sur un coup de tête, mais pas loin, sur un coup de tête, et ça a été décidé de façon complètement unilatérale. Et comme ce n'était pas assez, même à ce jour, plusieurs mois plus tard, en fait à peu près un an plus tard, après l'imposition des tarifs, on n'est toujours pas sûr des raisons réelles pour lesquelles ça a été mis de l'avant, parce que officiellement, l'administration Trump a invoqué des principes de sécurité nationale, même si c'est un petit peu difficile ça, à défendre. Ben c'est ça, quand on parle de pays comme le Mexique et encore plus le Canada. Mais il y a aussi le fait qu'on se disait, ben OK, ça a été mis de l'avant pour mettre de la pression sur les négociateurs canadiens et mexicains en ce qui a trait justement à la renégociation de l'ALENA. Mais la réalité, c'est que l'ALENA a été renégociée, on est arrivé à une entente, on a signé l'entente. Et ça fait quoi? À peu près 6 mois maintenant, en fait, un peu plus de 6 mois que ça a été signé. Donc, pourquoi, encore une fois, attendre et pour lever ces tarifs-là? Et des réponses claires de la part de l'administration Trump, on n'en a pas. Tout ce qu'on a eu, en fait, ça a été cette semaine le secrétaire au Trésor, donc un membre du cabinet présidentiel de Donald Trump. Je vous dirais même le membre le plus important de son cabinet en termes de matière, en termes de politique intérieure, qui est allé dire que selon lui, à court terme, ces tarifs-là seraient levés, donc seraient abrogés. Mais est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? En retour de quoi, en échange de quoi est-ce que ça va arriver? Ces questions-là non plus ont aucune réponse pour l'instant.
Mais d'autant plus que dans l'illogisme de ces tarifs-là, notamment sur l'aluminium, les États-Unis ne sont pas autosuffisants. Donc tant qu'il y a une surtaxe sur des produits pour lesquels ils doivent s'approvisionner à l'extérieur, ils n'ont pas le choix, ils ne sont pas autosuffisants, ben, il faut augmenter leur prix à eux, donc ils payent eux-mêmes plus cher.
Et c'est, ça fait partie des éléments qui sont assez difficiles à défendre présentement. Surtout lorsqu'encore une fois, je reviens à la charge avec ça, lorsqu'on parle de pays comme le Canada, ce n'est pas comme lorsqu'on parle de pays comme la Chine. On sait qu'il y a un énorme conflit commercial entre les États-Unis et la Chine qui perdure depuis des mois, en fait, qui semble prendre de l'expansion depuis la dernière semaine environ. La réalité, c'est que les Américains ont des doléances qui sont nombreuses, qui sont très sérieuses et qui sont parfaitement légitimes par rapport à la Chine. Le vol de propriété intellectuelle, la lutte au cheap labor, la liste est très, très longue. La réalité, c'est que on peut comprendre l'imposition de tarifs douaniers chinois pour modifier le comportement chinois, pour leur faire abandonner certaines pratiques déloyales, pour pas dire carrément malhonnêtes en matière de commerce. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça par rapport au Canada?
Ben non.
Ben, poser la question, ça revient un petit peu à y répondre.
Non, surtout que c'est des syndicats américains qui protègent les employés des alumineries canadiennes dans une bonne proportion. Donc, tu sais, même au niveau syndical, ça se tient pas, là.
Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez eu des entreprises dans les secteurs d'aluminium et de l'acier aux États-Unis qui ont applaudi ces tarifs-là, pardon, lorsqu'ils ont été annoncés l'an dernier. Donc, c'est pas comme si ça faisait aucun heureux aux États-Unis. Ça fait des heureux dans ces secteurs-là. Mais vous avez raison de dire que même au niveau de certains syndicats, certains groupes de travailleurs, on est loin d'être sûr que c'est vraiment bien avisé comme décision. Parce qu'au final, il y a un impact négatif qui est clairement perçu du côté américain. Et c'est aussi, il faut le rappeler, qui n'est pas comparable à la dynamique, par exemple, avec la Chine. Parce que lorsque, par exemple, on encaisse des coûts à cause du conflit commercial chinois aux États-Unis, ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est vrai qu'il va y avoir des prix plus élevés à la consommation. C'est vrai, même à la limite, que ça peut faire mal à la création d'emplois, ça peut faire mal à la croissance, mais ce sont des coûts à payer à court terme pour modifier vraiment une dynamique problématique qui est là depuis longtemps, qui va faire encore plus mal à notre économie et à notre pays à long terme si on ne la rectifie pas. Cette dynamique-là, ce raisonnement-là ne s'applique pas au Canada. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas une relation commerciale malsaine depuis 20 ans, comme c'est le cas avec la Chine, qu'on doit corriger. Donc, encore une fois, comment justifier ça? Actuellement, c'est assez difficile.
Oui, absolument. Mais suite à la visite de Chrystia Freeland, est-ce qu'on a des signes encourageants ou rien du tout?
Bien, on a eu les signes dont je parlais tantôt, c'est-à-dire le secrétaire au Trésor du président qui a dit, selon lui, que ça allait être levé bientôt, un important sénateur républicain qui a dit à peu près la même chose quelques heures auparavant. Mais ce qui est intéressant, ce qui est en fait un peu surprenant, c'est que du côté canadien qu'on se montre beaucoup plus prudent, beaucoup plus récalcitrant à déclarer une telle chose. Donc, Mme Freeland s'est fait poser la question à plusieurs reprises lors de son point de presse après qu'elle ait rencontré ses homologues américains à Washington hier, et elle s'est fait très, très avare de détails. Elle n'a pas vraiment voulu s'engager, a simplement répété la position évidente du gouvernement Trudeau, qui est évidemment de vouloir voir une fin à ces tarifs-là, mais à aucun point est-ce qu'elle a dit, ou elle a même suggéré que ça s'en venait, ou que ça s'en venait bientôt. Donc, ça a vraiment l'air que du côté canadien, disons qu'on n'est pas sûr où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, et à quelque part, c'est compréhensible dans la mesure où, encore une fois, on parle d'une décision au final qui va revenir à un homme, et un homme qui est, on le sait, excessivement difficile à prédire.
Oui, qui est dur à suivre, pas à peu près. Peut-être en terminant, j'aurais aimé vous entendre sur l'environnement, parce que là, l'avortement, parce que l'Alabama fait jaser énormément avec sa nouvelle politique anti-avortement, et là, avec l'histoire de la nomination des juges par le président américain à la Cour suprême, il y a beaucoup de monde qui craint que les États-Unis se dirigent tranquillement et indirectement vers l'abolissement, en fait, de l'avortement totalement, là.
Ouais, ben il faut faire vraiment attention parce que, avec tout le respect, et puis évidemment, je ne fais pas référence à vous quand je parle de ça, mais lorsqu'on parle d'avortement aux États-Unis, il y a beaucoup de voix dans les médias qui s'excitent très rapidement en connaissant, semblant pas vraiment connaître ce dont ils parlent. Parce que lorsqu'on parle d'avortement, du droit à l'avortement et du fameux jugement de la Cour suprême de 1973, Roe contre Wade, qu'il y a bien des gens qui craignent de voir abrogé. Ce que ce jugement-là a fait, c'est que ça a légalisé à l'échelle nationale, en fait, ça a forcé la légalisation de l'avortement à l'échelle nationale. Ce que ça dit aux États américains, c'est vous n'avez pas le droit de légiférer pour interdire le droit fondamental à l'avortement. Avant Roe contre Wade, donc avant ce jugement-là, ce qu'on avait, c'était essentiellement des États, des 50 États, qui avaient différentes règles, différentes lois en place. Donc, c'est pas comme si avant Roe contre Wade, il n'y avait pas d'avortement aux États-Unis, puis après le jugement, là, il y en a eu. Fait que si le jugement est annulé, on va revenir à une époque où il n'y avait aucun avortement, aucun droit à l'avortement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui se produirait, même si ce jugement-là était éventuellement renversé par la Cour suprême, et on est quand même pas rendu là, mais même si on allait jusque-là, ce qui se produirait, c'est que là, les États américains, les différents États, les 50 États, auraient une plus grande latitude pour légiférer. Donc, vous en auriez, comme l'Alabama, des États clairement beaucoup plus conservateurs qui, assurément, légiféraient pour restreindre le droit à l'avortement. Mais vous en auriez d'autres, comme l'État de New York, qui ferait, en fait, exactement ce qu'ils font depuis les derniers mois. Ça, les médias semblent en parler beaucoup moins, mais vous avez des États beaucoup plus libéraux, beaucoup plus à gauche, qui, eux, légifèrent pour augmenter le droit à l'avortement. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur cette question-là vraiment un exemple hallucinant de la polarisation aux États-Unis, parce que vous regardez ce qui s'est passé en Alabama. Le projet de loi qui est sur le bord de devenir loi, là, la gouverneure, c'est une femme, soit dit en passant, une républicaine, a annoncé hier qu'elle allait le signer, donc ça va devenir loi. Ça risque d'être contesté par les tribunaux, mais le fait est, que à l'heure actuelle, cette loi-là viendrait interdire tout avortement, même en cas d'inceste et de viol. Autrement dit, une femme qui se fait violer, une femme qui est victime d'inceste, qui tombe enceinte suite à ce rapport sexuel-là clairement non désiré, serait quand même contrainte de mettre la grossesse à terme, c'est d'avoir terrible. Le bébé. Et non seulement ça, mais s'il y avait un médecin, un professionnel de la santé qui mettait fin à cette grossesse-là, donc qui faisait un avortement, ça serait une peine d'emprisonnement allant de 10 à 99 ans. Donc, c'est excessivement sévère. Et de l'autre côté, et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est pour ça que je parle de polarisation, de grosses divisions aux États-Unis, grosses divisions politiques et sociales. Vous avez eu un gouverneur démocrate, le gouverneur de la Virginie, en fait, qui, il y a à peine quelques semaines, c'était en mars dernier, est allé dire qu'il était ouvert à la possibilité qu'on permette, j'allais dire l'avortement, mais rendu là, ce serait même plus l'avortement, mettre fin à la vie d'un bébé qui viendrait de naître.
Oh,
donc, écoutez, okay. On parle de après le troisième trimestre. Un bébé qui naîtrait, sortirait du ventre de sa mère, on aurait encore le droit de le tuer. Je m'excuse d'utiliser le mot tuer, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Oui. Parce que c'est plus un avortement rendu là, techniquement. Donc, vous comprenez, et j'évoquais l'État de New York aussi, qui a légiféré il y a à peine quelques semaines, pour qu'il n'y ait essentiellement aucune restriction sur l'avortement, que ce soit le premier, deuxième, troisième trimestre. Donc, on est dans des extrêmes de part et d'autre. Et donc, si jamais Roe contre Wade, on n'est pas là encore une fois, mais si cette décision de la Cour suprême-là était renversée et que les États avaient le pouvoir de légiférer, on pourrait se retrouver dans une société où, sur cette question-là précisément, là, on a l'impression d'être dans deux mondes. Un monde où l'avortement est non seulement illégal, mais très sérieusement criminalisé, et un autre dans lequel l'avortement est presque totalement permis, ouais, avec à peu près aucune restriction. C'est assez remarquable quand même.
C'est un drôle de monde, les États-Unis. On oublie souvent que c'est 50 pays dans un seul.
Ben c'est ça, c'est une bonne façon de le voir, effectivement.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine, 7h56.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick, Saguenay.